Voilà donc, bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Voilà, nous sommes le vendredi 19 octobre 2012 et vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Vous ne savez peut-être pas ou pas tout à fait, chers citoyens, que l'injustice est la pire chose qui peut arriver pour un individu. L'injustice, c'est vivre avec le sentiment de ne pas pouvoir atteindre cette fin en soi est une déception sans fin. Le coût de l'injustice s'amplifie, si vous voulez, à l'infini, quand vous vous rendez compte que celle-ci est exercée dans une société dite société de justice et de droit, comme la nôtre, par exemple. Voilà justement comment l'injustice arrive à démolir l'individu, comment elle peut l'anéantir, comment elle peut le faire mourir à petit feu. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, devant les injustices et l'arbitraire, certains citoyens préfèrent tout simplement de tourner le dos et tenter d'oublier l'impardonnable. Si les gens qui vont s'abriter derrière des excuses à la société, au système mis en place, donc au fait qu'ils ne sont pas les seuls sur ce bateau à risque à perpétuité. Ces victimes-là, ils ont la mémoire courte et l'oubli ou l'indifférence est une faculté d'évacuation. Mais il y a d'autres citoyens qui s'étouffent dans l'injustice. Ils n'arrivent tout simplement pas de continuer à vivre. Ces gens-là, ils préfèrent aller à l'extrémité et à l'extrême pour ce faire. Donc, ils tournent tout simplement l'arme contre eux. Dont ce geste, aussi regrettable qu'il soit pour nous, reste une délivrance de l'injustice, un refus et un éloignement de l'injustice. Une dissociation, si vous voulez, radicale du phénomène. Dont ce geste réfléchi qu'il soit ou non, la victime coupe froidement ce lien qui l'attache à notre existence, une existence un peu trop pourrie à son goût. Alors, il y a aussi une autre catégorie, si vous voulez, de citoyens dont le nombre n'est malheureusement pas très élevé. Cette catégorie est l'ennemi numéro un de l'injustice, de l'abus de l'autorité. Ces individus, et dans la plupart du temps, sont des victimes de l'injustice ou de l'arbitraire. Ils vont sacrifier toute une putain de vie, si vous voulez, pour vaincre ce phénomène aussi détestable qu'il soit. Ce phénomène qui frappe sans merci et fauche la vie et la stabilité de milliers et des milliers de victimes. Cette catégorie de gens, ils vont lutter jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils savent parfois que leur combat sera soldé par un échec. Dans cette catégorie, justement, et vous connaissez certainement quelques-uns si vous n'avez pas entendu parler, il y a celles et ceux qui laissent leur peau à la fin, d'autres leur santé, sinon leur vie, et des fois celle de leur famille. Cette catégorie, justement, ces gens-là sont énigmatiques, si vous voulez, mystérieux, bref, d'un courage hors norme, et nous pouvons dire hautement qu'ils sont la fierté de cette société qu'on cherche en vain, qu'ils sont la fierté de ce combat illégal dans lequel ils sont engagés. Nous devons les écouter, les respecter, pourquoi pas les apprécier parce qu'ils ont réussi tout simplement à faire face à ce monstre, dite l'injustice. Si vous n'êtes pas victime ou témoin de l'injustice, vous ne pouvez jamais, jamais comprendre le sens de ces mots et personnellement, je ne vous le souhaiterais pas. Notre invité d'aujourd'hui appartient à cette catégorie hors norme par le combat qu'il mène contre l'injustice et l'arbitraire de l'abus de l'autorité. Dans son cas, tout était fabriqué, pièce par pièce, falsifié mot par mot. Le rapport, ou plutôt même les rapports et les représentations, les spécialistes, bref, tout pour le démolir et le déclarer coupable dans une histoire qui mérite d'être un vrai feuilleton télévisé. Sa première rencontre avec l'abus de l'autorité remonte en 1991 et sa dernière rencontre dans le même dossier remonte au premier de ce mois-là. Alors aujourd'hui, l'homme est presque aveugle, visiblement épuisé, et l'âge ne l'a pas épargné non plus, mais sa voix reste son ultime et dernier recours pour témoigner, pour dire à quel point cette putain de société, notre société, le Québec, appartient de ces sociétés pourries jusqu'à l'os par les injustices. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire des balles du golf, une histoire qui a commencé tout petit pour devenir une vraie montagne difficile, voire même impossible à escalader, à l'âge où elle est rendue le témoin de ce matin. Nous l'avons déjà invitée sur ce plateau l'année passée, et comme son combat est toujours actif, maintenu, déterminé à être son dernier souffle, nous l'avons invitée afin de recharger, chers citoyens, nos batteries. D'abord, nous, les militants, après tant d'années, et vous, chers citoyens, afin de réactiver chez vous le droit de ne jamais reculer devant l'injustice, devant l'abus du pouvoir, l'abus de l'autorité, tout simplement. Nous sommes responsables devant cette société qui est la nôtre, et demain, sûrement, nos enfants vont nous demander des comptes. Notre négligence et notre silence ajoutera une tache dans l'histoire de ce pays qui est forcément le nôtre. Vous allez d'ailleurs trouver dans le témoignage de ce matin une raison aussi suffisante pour s'engager à combattre l'injustice, l'abus de l'autorité, qui, chaque jour, il continue de faire des victimes et des victimes. Il y a déjà 21 ans, de là, quand le fils de la victime, âgé de 11 ans, il ramassait des balles de golf perdues en dehors d'un terrain de golf de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'enfant en question revendit des balles usagées pour les golfeurs. Le propriétaire d'un terrain de golf voit dans ce jeu d'enfant une concurrence, donc il fait venir la police pour empêcher ou interdire justement l'enfant de vendre ses balles sur soi-disant le terrain de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, à partir de cet instant, et avec le début de cette petite histoire, vous allez voir comment la vie d'une famille va basculer et se ruiner entièrement, même si l'homme qui est en face de moi ce matin n'a jamais voulu baisser les bras. Devant une preuve falsifiée, inexacte et trompeuse, la victime devra se battre à nos jours. Avec vous, chers auditrices, chers auditeurs, ce matin au micro, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir et leur injustice. Avec moi, j'ai Roland Casas, il n'est pas encore rendu au studio, et peut-être aussi Caroline qui va nous rejoindre. Et j'ai mon invité d'aujourd'hui, Jean-Noël Mathieu, résident de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, victime de l'abus de l'autorité, victime d'une falsification de preuves par le corps de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il souffre depuis 21 ans le calvaire de l'injustice, de l'abus de l'autorité. Aujourd'hui, il est venu vous rappeler, cher auditeur, que malgré son âge, malgré la détérioration de sa santé, malgré avoir tout perdu, il n'a pas encore abandonné son combat. Après notre thème musical, Jean-Noël Mathieu, témoin de nouveau, restez à l'écoute, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Sur les problèmes de société, coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur saignante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baffe obscène est à la une.
Voilà, donc bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes, je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice. C'est une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et je passe directement à une entrevue avec mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Jean-Noël Mathieu. Bonjour, Monsieur Jean-Noël Mathieu.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes ici aujourd'hui. Je sais que vous avez déjà passé ici il y a presque une année, je pense.
Environ un an et demi.
Un an et demi, ouais, c'est passé ici. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette semaine-là, vous m'avez envoyé une copie de votre convocation que vous avez reçue
de l'accès à l'information.
De l'accès à l'information, dans le même dossier.
Et vous êtes toujours passé, le même dossier, 91.
Et vous êtes passé en le 1er octobre de ce mois-là, devant l'accès à l'information, pour le même dossier.
Pour le même dossier.
Peut-être la première question que j'aimerais bien vous poser, ça sera, au lieu de vous passer, c'est-à-dire, c'est comme c'est la dernière question. Alors, je poserai cette question-là qui est un petit peu... pour vous, pour savoir, après tant d'années, Monsieur Mathieu, de combat contre ce que vous appelez l'injustice, comment pouvez-vous, jusqu'à, je vois devant moi, visiblement, vous êtes fatigué, épuisé, oui. L'âge et tout, comment vous arrivez à ne pas lâcher, comment vous arrivez à ne pas abandonner le combat?
Tout simplement, c'est un enfant de 12 ans. C'est un enfant de 12 ans qui vendait des balles de golf, tout simplement.
Oui.
Le rêve de cet enfant-là, c'est de jouer au golf.
Oui.
Et puis, il ramassait des balles de golf usagées.
Et pour vous, parce qu'ils ont brisé le rêve de votre enfant que jusqu'à aujourd'hui, vous maintenez
ou... Plus que ça.
Plus que ça. Alors, revenons directement, cher auditeur, avec l'histoire que j'aimerais bien qu'elle sera résumée par la victime elle-même. Donc, revenons en 1991, il y a 21 ans de là, à cette fameuse arrestation de votre enfant.
Le 12 août 91, la police de Saint-Jean-sur-Richelieu arrive au club de golf de Saint-Jean,
oui,
et arrête mon fils.
Pourquoi il l'arrête, monsieur?
Il a pris une bande de balles de golf sans permis.
Votre enfant, qui avait 11 ans, ils vendent des balles de golf ramassées dans le terrain.
Sur le terrain, ouais, sur pas le terrain. Sur le terrain du golf, sur l'entour du terrain du golf.
OK.
Ils vendaient des balles de golf usagées, comme tous les enfants de Saint-Jean font.
Et le propriétaire n'était pas content?
Le pro du golf n'était pas content. Il a fini la police. La police nous a mis en état d'arrestation, moi et mon fils.
Juste avant de passer là, est-ce que pensez-vous que le propriétaire du
club de golf. Du golf
et la police, ils étaient il y avait quelque chose qui passe, le fil qui passe, quoi?
Écoutez, le club de golf...
Parce que c'est un enfant de 11 ans. Ouais, déjà, dès le départ, c'est...
Ouais, ouais. C'est un club privé.
Ouais, okay.
Il y a souvent des comme on appelle, là, ils s'arrangent une gang de policiers pour jouer au golf.
Alors, je sais que vous avez déjà, quand ils ont interdit votre fils de ramasser les balles ou de vendre les balles, si vous voulez, vous avez appelé pour savoir si vous avez le droit, oui ou non.
Et voilà. Alors, suite à ça, que mon fils avait été approché par les policiers, j'ai appelé le poste de police de Saint-Jean, donc je connaissais le directeur Poirier,
oui,
qui était pas un de mes amis, mais une personne que j'ai connue bien avant qu'il soit policier.
Oui, oui.
Et je lui dis à Réal, écoute Réal, c'est Jean-Noël, Raphaël, veux-tu me dire si mon garçon a le droit de vendre des balles de golf usagées sur le nom de la voie ferrée du Canadien national dans le club de golf? Il dit, aucun problème, Jean-Noël, je fais ça moi-même quand j'étais jeune.
Donc, vous n'avez pas besoin de permission?
J'avais pas besoin ni de permis, rien. Alors, à partir de là, oui. C'est là qui est important. À partir de là, le directeur, il dit, écoute, Jean-Noël, si la police y va,
oui.
Il dit, dis-leur qu'il appelle au poste, puis je vais m'arranger avec ça.
Parfait.
Le samedi, le 12 août 91, mon fils retourne au club de golf, oui. Sur la voie ferrée, mais je l'accompagne.
Oui.
Et le pro du golf vient, il fait des menaces.
Oui.
OK, puis je t'en vais pas, je fais venir la police.
Oui.
Et la police est arrivée.
OK.
Et ils nous ont mis, moi et mon fils, en état d'arrestation.
Oui.
Ils nous ont emmenés au poste, les deux. Ils nous ont enfermés dans une salle.
Oui.
Et un papa nous a mis.
Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi?
Pour avoir vendu des balles de golf sans permis.
OK.
Puis il n'y avait pas de permis qui existait.
Est-ce que vous l'avez informé les policiers comme quoi vous avez déjà demandé la permission?
Oui, j'avais demandé la permission à Réal.
Les deux policiers qui vous ont arrêté la première fois, c'est quel nom?
Mainville, Charles Mainville, puis oui. M. Patnaud. Okay. Numéro 1, Patnaud, numéro 8, Mainville.
Mainville.
Okay. Ça, c'est dans l'après-midi, là. Il faut faire bien attention.
Alors, rapidement, après ça, ils vous ont relâché après l'arrestation?
Une demi-heure après, ils m'ont relâché. J'arrive chez moi, je rappelle. Réal,
oui,
parce que le premier téléphone que j'ai eu avec Réal, c'est 5 août.
Réal, c'est le...
Poirier, le directeur de police.
Le
12 août 91, on se renvoie un samedi. Là.
Oui.
12 août 91, je me fais arrêter. J'appelle Réal après l'arrestation, vers 3h30, 4h.
Oui.
J'ai dit, coudonc, Réal, tu me dis que mon fils a le droit de vendre des balles de golf, tu viens de me faire arrêter, je ne suis pas au courant, Jean-Noël. Je n'ai pas le temps de te parler, je m'envoie un chupier des montgolfières, je te rappelle demain matin.
Et la communication s'est arrêtée?
Pas tout à fait. Là, j'ai dit, écoute, il me demande quel policier qui m'avait arrêté. Là, oui. Je compte des policiers, mais je fais attention, il y en a un qui a été correct. Il n'a pas fait ça. Lui, il était correct. Mais il dit, l'autre n'a pas été correct.
Pour les deux, là, il y a un qui était correct, par contre, l'autre n'est pas correct. C'est bon.
OK. Alors, ça, c'est enrichi au poste sur une bande magnétique.
Oui.
Qu'on appelle, mettons, pour les auditeurs, une assiette de pizza à la bande.
Oui,
ça vous donne une idée, là.
Oui.
Et puis, c'est juste
un. Toutes les communications au poste sont enregistrées.
Sur 10 pistes. Oui. Sur 10 conversations en même temps.
Alors, c'est bon. Le lendemain, vous revenez.
Là, on est le 12 août. Je reçois un téléphone lendemain matin. Oui. Le 11, le 12, le 13. Oui, c'est ça, le 13 août. Du sergent détective vivant, alors. C'est le patron des enquêtes du service de police de Saint-Jean chez Chérieux.
Oui. Il vous appelle pourquoi?
Et il m'a dit, Jean-Réal, il dit, Réal m'a demandé de te rencontrer. Fait que je me présente au poste avec mon épouse.
Oui.
Et là, dans le petit bureau qui m'emmène, que je trouvais que c'était pas normal, parce que je savais qu'il y avait un grand bureau, c'est le directeur des enquêtes.
Oui.
Il dit, écoute, Jean-Noël, on me dit qu'il blâme les policiers dans cette affaire-là, ça va pas d'allure.
Parce qu'ils vous ont rencontré, l'arrestation était deux fois, hein? Ils vous ont arrêté deux fois.
Oui, c'est ça. Le soir, je ne l'ai pas parlé, le 12. Il y a une autre arrestation.
Il y a une autre arrestation aussi.
Le soir, oui.
Abusif aussi.
Oui, abusif. La même jour, le 12. Parce que là, on arrive au 13 dans le matin. On arrive au 13 dans le matin. Et puis, parce qu'il y en a eu deux le 12, hein, on se comprend, une à 4h puis une à 7h le soir. Tout le 12 août 91.
Deux arrestations.
Deux arrestations pour la même affaire. Ah, j'avais été manifesté. Puis le soir, mais c'était Henri, Sylvain Henri, puis José Laroche, deux policiers.
Oui.
Mais eux autres, ils font pas partie de la conversation sur la banque, plus que Poirier était parti depuis 5h du poste de police.
Exactement.
Puis il m'a arrêté à 7h. Puis eux autres faisaient partie de la conversation du 12 août. Il ne pouvait pas l'être, plus il m'avait arrêté à 7h le soir.
Oui, tout à fait.
Alors, lendemain matin.
La convocation.
Là, j'ai la conversation. Réal, pas Réal, mais Yvan Huard, le sergent détective Yvan Huard, dit Jean-Noël, on est tiens, je le connais, là, je sais pas. Je l'ai connu avant que tu sois policier, ces gars-là.
Oui,
là.
Oui.
J'ai 70 ans, là.
Oui.
Alors, il dit, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Noël? Là, je lui compte l'histoire des policiers.
Oui.
Je lui dis, tel policier est correct. Ben, tel policier n'est pas correct. Ça a fait ci, l'autre a fait ça. Et ben, il m'enregistre à mon insu, mais pas sur les bandes de police.
Oui.
C'est un enregistrement ordinaire.
Oui.
OK?
Mais vous voyez, vous n'avez pas constaté.
Non, moi, femme a vu un enregistrement à torsant des dossiers.
Oui.
Mais elle a vu, mais elle ne sait pas si
ça marchait. Elle ne savait pas si ça marchait ou non.
Okay. OK, d'accord, mais c'était en dessous des dossiers.
Alors, vous partez là, vous quittez là?
Alors là, moi, je repars de je lâche Yvan Huard, puis il dit, écoute, on s'en aura avec ça.
Oui.
Là, c'est fini, je m'en vais chez nous. Je me vais d'abord, puis je m'envoie un avocat.
Oui.
Puis je porte une plainte en déontologie policière.
Ici, la première, oui.
Pour les quatre policiers.
Parfait, oui.
OK, Patnaud, Henri, Sylvain Henri, José Laroche, puis Mainville.
Oui.
Là, à partir de là, je pars, puis là, on s'envoie un avocat pour une poursuite.
Au civil,
le 125 000. Pour l'enfant.
Vous poursuivez pour 125 000.
La ville de Saint-Jean, conjointement les policiers.
Oui, pour les deux arrestations.
Oui, c'est ça. Tout est fait. Ouais. Là, presque tout est fait. La plainte est portée en déontologie policière. Et c'est là, monsieur les auditeurs, écoutez bien ce que je vais vous conter.
Ouais.
La déontologie policière.
Policière,
oui. Wow! Ça, c'est dangereux. Là, il y a un moment donné, je fais la plainte, il y a un enquêteur qui s'en vient me voir. Écoutez bien, il s'appelle Pierre Viau.
Oui.
C'est un ancien gars de la Sûreté du Québec.
Oui.
OK? À sa retraite, qui enquête sa police. Il travaille pour le commissaire de la déontologie policière.
Oui.
Alors, lui, cet enquêteur-là, je lui remets la conversation, première conversation que moi, j'avais enrichie le 5 août, où Poirier m'avait dit, je vois pas pourquoi ton fils n'aurait pas le droit de faire ça, vendre des balles de gars. Ma femme, il remet cette conversation-là.
Vous l'avez donné la cassette?
Oui, c'était au mois d'avril 92. Oui. Avril 92, oui. Je me rappelle. Là, ma femme lui remet l'enregistrement. Moi, je suis pas capable d'en faire des copies. Il dit, je vais en faire une copie, je vais vous la remettre. Oui. Environ trois mois plus tard, toujours en 92,
oui.
L'enquête était en cours. Il m'appelle, il dit, avez-vous un autre enregistrement? J'ai dit non. J'ai dit, tu devais m'en faire une copie. Il dit, accidentellement, je l'ai brisé.
Oui. Il a brisé l'enregistrement.
Oui. J'ai dit, c'est pas grave.
Oui.
Ce n'est pas grave. Retourne au poste.
Ils vont vous donner une copie.
Ils vont te donner la copie de l'assiette à pizza.
Oui, oui.
La grosse balle.
La grosse balle, oui.
Il dit non, ils l'ont détruite.
Oh my God.
Okay. C'est vrai qu'il l'avait détruit. Mais écoutez bien, là, il me dit non, il n'a pas. Ça reste là. On arrive le 28 juin 93 devant le comité déontologie policière à 500 Sherbrooke West, l'Auto-Québec.
Oui.
Là, le premier personne qui embarque dans son vue, entre guillemets, dans la boîte, c'est moi. On me montre la transcription. De mon témoignage, de ma conversation téléphonique sur l'assiette de pizza du 12 août 91. Et quand j'écoute la conversation sur l'assiette de pizza que tout le monde comprend, on parle toujours de la grande banque,
ouais.
Sur cette assiette-là, je m'aperçois qu'il y a des conversations dans le bureau du hors-dedans.
Oh my God.
Et je m'aperçois que la conversation que j'ai eue avec M. Poirier le 5 août 91, avant, il y avait des bouts des têtes de dents.
Alors, explique-nous, ça
intéresse. Alors, autrement dit, je dis au commissaire, je dis au comité.
Oui.
Monsieur le comité.
Je me reconnais.
Ils ont fabriqué une
chose. J'ai dit, hey, c'est un montage, ça, là.
C'est un montage, oui.
Alors, c'est là que le maître Gilbert, qui était le président du comité,
oui.
Donc je viens approcher M. Gilbert, maître
Gilbert. Il a ordonné une enquête sur ça, oui.
Alors, lui, il dit, dans ces conditions-là, je vais voir qui est responsable de cette bobine-là. Là, ils font rentrer le sergent détective Yvan Huard.
Oui.
Et là, le maître Gilbert, il demande, il dit, c'est quoi, quelle est la bobine originale? Il dit, je l'ai dans mon bureau barré à clé. La bande originale.
Oui.
Et c'est pas vrai, elle était effacée.
Il l'avait pas,
il va la remplacer par un autre, ça s'en vient.
Il va la remplacer. Mm-hmm. Mais juste ouvrir une parenthèse pour les gens qui nous écoutent et qui comprennent. Ça veut dire qu'ils ont pris trois enregistrement et faire de trois enregistrements un seul enregistrement.
Exactement. C'est ça. Faire un montage et de la finir à partir d'un nœud. D'aller chercher des.
Avec votre voix, c'est oui. Vous qui parlez.
Exactement.
À l'avantage. Ben oui, oui.
Tout à fait.
Ils ont pris des bouts, oui.
Et là, à partir de là.
Ça, c'est la police de
Saint-Jean. C'est le sergent détective Huard, je le dis bien, là. Ouais. Mesdames et messieurs, je répète que je ne vais pas tomber. Il s'appelle.
Réal.
Ouais. Pas Réal, je veux dire. Yvan Huard, le sergent détective.
Yvan Huard.
Et lui, ce gars-là, il va avoir un mandat de la ville de Saint-Jean pour organiser, pour étouffer cette affaire-là, avec la complicité de la ville de Saint-Jean, parce que la ville de Saint-Jean a une action de 125 000 dans l'affaire. Alors, la ville de Saint-Jean.
Il s'est actionné 125 000
$. Oui, et là, la ville de Saint-Jean va se servir de Huard pour étouffer la preuve, puis arriver avec une nouvelle preuve, avec la complicité de la ville. La ville est impliquée dedans.
Alors, revenons à l'antologie policière. Donc,
j'arrive et le commissaire demande d'avoir la bobine originale.
Voilà.
Et là, l'avocat de la fraternité des policiers de Saint-Jean, il dit, monsieur, conteste la conversation qu'il y a eu avec Poirier le 12 août 91. Alors, il faut écouter l'enregistrement.
En fait, c'est la originale.
Non, la copie de l'original.
Ouais.
Elle n'existe pas. Il arrive avec une micro-cassette. Quand je dis une micro-cassette, je vous parle d'une affaire d'1 pouce et demi carré.
Oui, oui.
On ne parle pas d'une 4 tracks.
Oui,
on parle d'une petite cassette, bien petite. Oui. Et on n'attend rien, bien entendu. Le commissaire, et c'est là que le comité, Maître Gilbert, dit « Je vais avoir la bobine originale. » Le 30 juin 93, suivez-moi bien,
oui.
La bobine, elle arrive. Elle est vierge, je sais qu'elle est...
Elle n'y a rien,
c'est pas vrai. C'est un bluff. Là, il emmène la bobine, elle est déposée. Comme pièce à conviction, c'est la preuve criminelle, si on veut, entre guillemets.
Oui.
Alors, elle est déposée sur la cote C9.
Oui.
Et donc, elle appartient, c'est que c'est commissaire, comité.
Oui.
Donc, ça appartient au comité. Donc, le responsable de cette bobine-là est maître Jean-Guy Gilbert, oui. Avec son avocat qui représentait le comité, Maître Karine Daou, elle avait qui était impliquée dans ça.
Oui.
Maître Karine Daou, qui est aujourd'hui directrice de l'Ordre des dentistes du Québec. Ça n'était elle qui a fait des affaires pas trop correctes dans ça.
Oui.
À partir de là, à partir que la bobine est déposée, quand ça c'est tout est déposé, je sors de là et je crie au maître. J'ai dit à Karine Daou, hey, c'est pas vrai, la bobine est vierge, je le sais, je suis au courant. Et au bureau, me l'avait dit en 92. Puis je savais qu'elle n'existait pas, c'était pas vrai. Fait que. excusez.
Ouais.
Fait que là, c'est là qu'ils ont décidé de l'envoyer faire l'expertise. On devait aller au palais de justice de Saint-Jean, première place pour l'écouter. Puis, à fait du coup, on ne pouvait pas aller l'écouter, elle n'existait pas. Elle avait été démagnétisée. Durant les audiences en déontologie, au comité déontologie, la bobine va disparaître dans les mains de Maître Caroline Daou. Puis ça se fait dans le dos du comité. Dans le dos de Maître Gilbert. Lui, pourquoi non qu'ils ont fait ça là? Et durant ce temps-là, le 30 juin 1993, aller jusqu'au 26 octobre 1993, la bobine, il ne va pas au laboratoire. Alors, il ne va pas là, il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on va les porter, qu'est-ce qu'on va faire, puis si, puis c'est ça. Et là, il va y avoir des jardins qui vont parler avec Vio, Pierre Vio, puis il dit, ben oui, mais la bobine est vierge, et ça, ben, parce que là, fin du compte, il s'organise le laboratoire avec la complicité du sergent détective Bingard. N'oubliez pas que le sergent détective...
Mais vous parlez de laboratoire, de sciences...
Sciences judiciaires, médecine légale, 17 jours 1, partenaire à Montréal.
Oui, c'est ça.
OK. Alors, ils vont s'organiser pour envoyer la fameuse enregistrement que Huard avait monté, mais sur une 4-track. Ils vont la changer pour la mettre sur une 4-track. Ils vont remettre cet enregistrement-là à l'expert du laboratoire de sciences judiciaires, M. Gilbert Desjardins, oui. Directeur en balistique du laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale. En 80, et il va savoir ça le 26 octobre 93. Et la personne qui va aller porter la présumée bobine,
oui, c'est le...
qui n'est pas une bobine, mais une 4-track,
oui.
Ça va être le sergent détective Vivant Huard. Monsieur Edge,
oui.
Comment que Huard peut aller porter le 26 octobre 93 la bobine au laboratoire?
Et c'est lui qui est impliqué dans le.
Ben oui, ouais. Comment qu'il peut aller porter la bobine le 26 octobre 93 plus qu'elle est dans les mains du comité depuis le 28 juin 93? Comment ça se fait qu'elle lui retombe dans ses mains? C'est pas vrai.
Oui.
C'est Vio, Pierre Vio, qui est en arrière de ça.
Oui.
Le policier du comité déontologique policier, avec la complicité du policier de Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont été au laboratoire et ont laissé croire qu'il avait remis la bobine, puis en fait, c'est une 4-track. OK? À partir de là, les audiences sont arrêtées le 30 juin 1993 et rapportées au 29 novembre 1993. C'est-à-dire le 30 novembre 1993. À partir de là, Maître Karine Daou a dit au juge, à Maître Gilbert, écoutez, l'expert au dossier pour la bobine n'a pas fini ses expertises.
Vous parlez de Gilbert Desjardins.
Gilbert Desjardins n'a pas fini son expertise. Ça fait 4 mois, là.
Oui.
Puis là, on va attendre avoir son expertise,
oui.
Et à partir de là, nous prendrons une décision, moi et mon confrère, c'est-à-dire l'avocat de la fraternité des policiers.
Oui.
On compte ce qu'on appelle planter la carotte.
C'est ça.
Tout
oui.
était cuit. Alors, le 14 décembre 1993, Gilbert Desjardins envoie au comité déontologie policière son faux rapport.
Ouais, c'est ça.
Le rapport du 14 décembre 1993 du laboratoire de sciences judiciaires était faux, mensongère et trompeur.
Ouais,
il va signer.
Ouais, vas-y, continue.
Il va signer le rapport sans y se présenter. Il va signer son rapport, Gilbert Desjardins, ingénieur. Il ne l'était pas. Il était stagiaire.
Ouais, ça, c'est la première gaffe, oui.
Ça, c'est la première gaffe qu'il va faire. Mais savez-vous pourquoi que le comité, Maître Karine Daou, n'a pas fait venir Desjardins? C'est qu'elle le savait qu'il n'avait pas eu la bobine dans ses mains. Elle le savait qu'elle avait menti. Puis elle le savait qu'il n'était pas expert en la matière.
Tout ça, M. Mathieu, juste pour des balles de golf.
Tout à fait.
M. Mathieu, je ne m'étonne plus qu'il y ait de la mafia dans le gouvernement et de partout.
Monsieur?
La police, elle est complètement endormie avec des conneries plutôt que de se remuer les fesses, arrêter toutes les bandits.
Mais voilà ce qui m'intéresse, moi, maintenant. alors le Gilbert Desjardins, il a remis son rapport.
À partir de là, suivez-moi bien, vous allez voir que le comité.
Oui.
Là, moi, j'envoie une lettre. Là, je reçois la décision du comité. En mai
1994.
Oui.
Pourquoi vous demandez rejeter?
Oui, là, j'ai dit, écoutez, il s'est passé. Là, j'ai écrit au comité,
ouais.
Au commissaire, j'ai dit au commissaire, là, le patron,
ouais.
Il s'est passé des choses très graves dans le dos du comité.
Ouais.
Puis, tout ça, j'ai les lettres, j'ai tout. Et il me répond qu'il ne peut pas rien faire.
c'est le jour qui décide.
Ouais.
Donc, la décision est donnée que les policiers ne sont pas trouvés
non
coupables.
Oui, non coupables.
Alors, le jour qu'ils m'avaient poursuivi durant les audiences, on n'oublie pas.
Ça, c'est la fraternité policière qu'ils ont poursuivi.
Oui, ils m'ont poursuivi pour environ une cinquantaine de mille. Il ne faut pas me trop tromper. 30 dans le camp, 30 ou 50 000, quelque chose de même. Là.
Ouais, mais, le syndicat.
Ouais. Le syndicat de la fin de l'été, oui.
Parce que vous avez déposé une plainte non fondue, c'est ça?
C'est ça. Ils se sont fiés sur l'enregistrement UAR. Ouais. C'est sur ça qu'ils se sont basés.
Ouais. Sur là, ce qu'ils veulent, quoi.
Là, à partir de là, c'est là qui est important. On arrive en 94. En mai 94, le comité des... Ah oui, tout est beau. Les policiers ne sont pas blommés, tout. Comprenez-vous, je veux dire. Mais, n'oubliez pas, on a besoin d'un rappel.
Oui, c'est ça, oui.
On ne peut pas y aller en rappel. Parce que si tu venais en rappel, il faut que tu gardes la bobine. Mais la bobine est disparue. Il faut que tu gardes la bobine, tu ne peux pas la détruire parce que tu t'en viens en rappel. Ouais. Fait que la bobine va disparaître. Tout disparaît le 23 décembre de... à 17-01 partenaire, là. Ouais. Elle disparaît là. C'est de là qu'elle disparaît. Ouais. Et c'est idiot qu'on fait disparaître. Là, suivez-moi bien. On arrive en 2000. OK, là, je suis condamné à 99.
Vous êtes condamné à payer cette somme.
Oui, et là, Desjardins vient déballer son faux rapport devant le juge Morgan dans la cause civile. Et puis, explique comment que tu fais ça.
Ça, c'est Gilbert Desjardins.
Gilbert Desjardins, l'ingénieur de laboratoire de sciences judiciaires, n'oubliez pas, c'est un gars.
L'expert, oui.
Un expert, même un expert. Ouais. Il ne l'était pas.
Stagiaire.
Et voilà, et il n'était même pas expert en banque, d'audio. En balle, peut-être, mais pas. Alors, lui, il va lui jurer Dieu comme frère, qu'il avait fait des percées, qu'il avait écouté la bobine, qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça.
Et tout ça, c'était faux, là.
C'était faux. En 2000. Là, on nous autres, le commissaire à déontologie policière, il arrive un nouveau commissaire, extrêmement honnête, mais vraiment sincère, il s'appelait Paul Montpetit. Lui, il dit, moi, je vais aller au bout de cette histoire-là. Il ne croyait pas qu'un citoyen pouvait être condamné parce qu'il avait passé devant le comité des déontologie policière, puis qu'est-ce qui est arrivé là? Il voulait savoir qu'est-ce que ses employés avaient fait, qui n'étaient pas ses employés dans le temps. Et si c'est là qu'il découvre, pour couper ce vide-là, il a découvert que Pierre Viau avait eu les deux vrais enregistrements de ma conversation, la celle du sang et la celle du doute, les originaux. Parce que le nouveau directeur était changé. Lui, il ne savait pas que lui en avait fait un montage. Lui, il envoie des vrais. Et quand que lui, il va les recevoir, il va en recevoir un au mois de juin, c'est-à-dire le 15 septembre 1992, Viau l'a fait disparaître. Il va en recevoir un autre de René Desautels, le directeur adjoint. En tout cas, je pense que c'était. Oui, c'est ça, en juillet, 17 juillet 92. C'est la celle du 5 et la celle du 12. Ces deux-là vont disparaître dans les mains de Dio. Et la celle que ma femme lui avait donnée, elle disparaît avec. Tout est disparu. Mais quand que nous autres, le commissaire a commencé son enquête, il y a eu une enquête de la Sûreté du Québec en même temps. Bien entendu, l'enquête de la Sûreté du Québec, ils n'ont jamais venu me voir. À part la plainte que j'ai portée, ils ne sont jamais venus me voir pour leur mettre la preuve que j'avais. La preuve était trop incriminante contre Desjardins. C'est pour la raison qu'ils ne sont pas venus me voir. Donc, ils ont rendu un rapport. Ça tenait pas de bout de pensée.
C'est un nid de ripoux que vous avez là-bas.
Et là, à partir de là, ne parlez pas, mais je suis parti. Et là, à un moment donné, le commissaire des déontologie policière, là, il vient de pogner une poteau rose. Là, il s'aperçoit que Gilles Darlin a commis des actes criminels. Et ses employés du comité des déontologie policière, ils sont impliqués dans cette magouille-là.
Oui. Mais pourquoi les employés de la déontologie policière s'impliquent dans un dossier qui, normalement, on parle de la fraternité policière, les services de la ville, les policiers, le service de la ville de
Je vais peut-être dire pourquoi. Oui. C'est qu'il y a deux avocats. Il y a un avocat qui représente la fraternité des policiers.
Oui.
Et quelques autres voient la transcription et le comité des déontologie et la transcription.
Tout à fait.
Karine Daou.
Oui.
Ben, je félicite les policiers, c'est toute beauté, mais c'est un écœurant, ce gars-là.
Oui.
Ça n'a pas de sens. Alors.
Ah, voilà.
Oui. On laisse aller à Bébé. Ben oui, plantez-les, le gars. C'est ça le but. Alors, Karine Daou, là, elle est au courant que la bobine est vierge. Parce que je l'ai poignée, Karine Daou, là. Je l'ai pas manqué, elle, là. Et j'ai pété une crise. Mais écoutez bien qu'est-ce qui va arriver. Le 30 novembre 93, je suis au collège militaire le 29 novembre, d'avant-midi, je reçois un téléphone de mettre Karine Daou m'a présenté en déontologie policière le 30 novembre 1993.
Oui.
J'ai dit, pourquoi je ne veux rien savoir de vous autres? Vous êtes toute une gang de crosses. Mm-hmm. Et oui. Je ne veux rien savoir de vous autres. Elle a dit, oh non, monsieur, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose pour régler ça. Ma femme m'a conseillé d'y aller.
Oui.
J'y vais. Mais elle dit, fais attention, signe rien, parce que je suis semi-envoyant.
Oui.
Fait qu'elle dit, fais attention, signe rien. Signe rien, t'as compris. J'arrive là le 30 comme de fait. Il m'offrait 8 000 pour mon enfant, mais je retire ma plainte. Je ne peux pas tirer ta plainte.
Ils vous ont, ils ont offert 8 000 pour retirer ta plainte.
Oui, il m'a tiré ma plainte. Pourquoi il l'a tiré?
Ça, c'est la déontologie policière.
Oui, le comité. Le comité. Karine Daou, qui représente le comité.
Oui.
Elle avait qu'à être impliquée dedans. Elle me conseillait de signer. Le papier que je signais, c'est quoi que les policiers avaient dit correct, que j'avais monté ça de toutes pièces, et mon enfant avait monté ça, et ma femme avait monté ça de toutes pièces. Mais ils ne voulaient pas que ma femme soit là, parce qu'ils savent que je suis semi-voyant.
Mm-hmm.
Fait que j'aurais signé ça, c'était pas pire. Mais écoutez bien ce qui est arrivé. À partir de là, je vais sonner chez nous. Et puis j'ai dit, on va attendre qu'est-ce qui va se passer. Fait que je pars. Je suis la décision.
Mais vous avez rien signé, vous n'avez pas accepté.
Non.
Vous avez accepté.
J'avais une chambre parce que je venais de me pendre.
Ouais.
Alors, en 94, la décision sort en mai 94. Et là, je dis au comité déontologie policière, le commissaire, vous voyez, c'est un montage. Puis c'est ici, puis là, je compte la bobine des disparus, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Ouais.
Ils n'en tiennent pas compte. Mais le commissaire de la déontologie policière, en 2000, quand j'étais condamné au civil, Maître Paul Monti, lui, il décide de faire une enquête. Il décide de faire une enquête.
Okay? Oui.
Et quand il a décidé de faire une enquête, il a trouvé le poteau rose. Et ça va prendre 5 ans de faire l'enquête.
Ça a pris 5 ans pour faire une enquête pour savoir.
Puis il le savait depuis 2002.
Oui.
Pour savoir qui étaient les joueurs qui ont monté cette preuve-là, qui ont corrompu les jardins au laboratoire.
Oui.
Qui était tout en arrière de ça? Mais les gars qui étaient en arrière de ça, c'était Pierre Viau.
Oui.
Un enquêteur du commissaire de la déontologie du policier. Pierre Viau, à sa retraite. Puis il y avait. Voyons l'autre, Pierre Viau, et puis le sergent détective Yvan Huard, qui était tout au courant de ça. C'est eux autres qui avaient tout manguinancé ça. Autrement dit, Viau, il a pris la preuve originale qui démontrait mon innocence, il la laissait disparaître pour laisser passer la fausse preuve à Huard, avec la complicité de la ville de Saint-Jean. La ville était piquée dedans, là.
Oui, c'est...
Parce qu'il y avait une nation de 125 000, la ville. OK, il savait qu'il augmentait. Il savait qu'il aurait fabriqué de la preuve. Il était tout au courant de la ville. Maître, il y a un avocat qui s'appelle... Le nom ne me vient pas. Ça me vient, je vous le disais tout à l'heure. Alors, à partir de là, le commissaire, il me rencontre. Mouvement Action Justice.
Ouais.
Rencontre le commissaire, c'est-à-dire l'assistant du commissaire, à Montréal. Puis il m'offre un montant de 25 000.
Pour vous, là?
Oui.
Pour abandonner, là.
Abandonner. Ça, il y a un reportage dans la presse, dans cette affaire-là.
Ouais.
Il y avait 5 000. Bien entendu, on dit que c'était pas vrai. Mais ça avait été enregistré.
Ouais.
Et à partir de l'enregistrement, bien, il y avait les transcripts. Puis la journaliste a dit, non, c'est vrai. Alors, j'ai vu l'enregistrement, bien, j'ai écouté l'enregistrement, bien, j'ai vu les transcripts.
Ils vous ont fait 25 000 $ pour étouffer le soir.
Parce qu'il y avait des employés de son ministère qui impliqués dedans.
Mm-hmm.
Donc, quand vous allez au comité des autorités policières, pensez deux fois si vous en remettez, pas le comité, le commissaire, vous en remettez des pièces. Gardez qui est devant vous, l'enquêteur. Très important.
Ouais.
OK? Puis jamais donner les originaux. Jamais, jamais, jamais. Et à partir de là, il m'envoie la décision, le commissaire.
Mm-hmm.
Puis ils le savent que c'est eux autres qui ont fait ça. C'est ses employés. Et bien, ils me blâment bien, je. Que, effectivement, de la transcription, c'est bien vous. Je doute pas de l'expertise de M. Desjardins, que M. Desjardins, c'est un expert, puis que c'est à moi le menteur. Le commissaire. Là, c'est Maître Claude Simon,
oui.
Qui est là dans le moment.
Ah, c'est lui qui a besoin.
Lui, ça, c'est le pire de la gang.
Ah, ouais.
Et à partir de là, monsieur, j'ai compris, M. Simon, je répète, vous êtes le pire de la gang.
Oui.
Et à partir de là, là, moi, je reçois ça. Et je vois, dans le milieu de cette décision, et je dis, et je vois un espèce, donc je vais le respecter parce que le monsieur, je veux respecter l'espèce.
Oui, oui.
La question, le monsieur. Je l'appelle, je dis, écoute, monsieur, il dit, ça a l'air que les bobines, tout est bien beau, puis non.
C'est un deuxième expert, là.
Oui, l'expert du commissaire.
Du commissaire, oui.
C'est son expert à lui.
Oui.
Il dit, non, on a envie des paroles, je peux poser des paroles.
Ah, il a dit.
Oui, j'ai des transcripts, j'ai vraiment là de ça.
Fabrication.
Non.
Ouais. Fabrication de preuves.
Donc, qu'est-ce que le commissaire disait dans son rapport était faux.
Ouais.
Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit au commissaire, vous allez remettre le rapport bouché.
Oui.
Je veux le rapport Boucher.
Le rapport Boucher, c'est le deuxième expert, là.
Ouais. Oui. Le rapport Boucher, que le commissaire avait commandé.
Oui.
Il n'a jamais voulu me le donner. J'ai passé par l'accès à l'information. J'ai passé par l'accès à l'information. Et puis, ça a pris un an et demi avant de l'avoir. Quand je l'ai eu, ça démentissait carrément qu'est-ce que le commissaire avait dit. Ça le démentissait carrément. Il avait, le commissaire m'avait menti dans son propre rapport.
My God.
Maître Claude Simard. Maître Claude Simard. Il m'avait menti. À partir de là, l'Ordre des ingénieurs du Québec, il y a une enquête, eux autres, avec, en cours.
Oui.
L'Ordre des ingénieurs, je leur remets tous les témoignages de Desjardins. 99. 99 devant le juge Morgan, 2002 devant l'honorable juge de l'INAL. Monsieur Desjardins, en 99, il a juré qu'il avait écouté la bobine originale. Il avait extrait la conversation lui-même. Il avait écouté et il avait expertisé à partir d'une grosse machine, gros comme un frigidaire.
Oui.
En 2002, quand on a su que c'était pas vrai, il a dit que non, il ne sait pas qui a fait la copie d'une cataracte, mais qui a fait l'expertise à partir d'une cataracte sur un dictaphone EV5000 cataracte.
Là, il change d'avis.
C'était plus pendant toute la bobine originale.
Ouais. Il a changé complètement la version.
Il a changé complètement sa version.
Ouais.
Puis là, il a avoué qu'il avait menti. Il a fait un rapport faux, mensongeur et trompeur. De savoir être parjuré devant le juge Denis Noël. De savoir être parjuré où j'ai été condamné, en 99, devant le juge Morgan, fait une des policiers. D'avoir signé Gilbert Jardin, ingénieur.
Il a reconnu sa culpabilité.
Sur quatre chefs d'accusation les plus minimes.
On va juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec la fin de l'histoire. Donc voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Rebonjour, monsieur Mathieu.
Bonjour.
Donc, ce que vous nous avez bien expliqué, comme quoi, pour justement que les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont intervenu dans cette fausse arrestation, pour justement gagner leur cause, ils ont, soi-disant, si vous voulez, permettez le mot, ils ont étudié Gilbert Desjardins aussi.
En fait, le présumé spécialiste, c'était M. Gilbert Desjardins, de laboratoire de sciences judiciaires. Mais quand que lui, ce gars-là était un stagiaire. Ce gars-là n'était pas spécialiste en bande audio. Oui. Ce gars-là n'a jamais extrait la bande audio. Oui. Il n'a jamais eu dans ses mains la bobine pour écouter cette conversation-là.
Et pourtant,
cette pizza. Oui.
Et pourtant, il a fait un rapport.
Là, lui, il sait que la pièce que Huard va lui donner n'est pas la pièce qui a été déposée devant le comité.
Oui.
C'est une pièce qui, autrement dit, c'était donné, qui est extrêmement illégale. Tu n'as pas le droit de faire ça dans un laboratoire. Et à partir de ce gars-là, lui, il est venu témoigner en 99, puis il m'a condamné. Ça m'a coûté, là, moi, avec toute son histoire au complet, là, c'est ce que Desjardins a fait, là, en 2002, là, quand il se fait pogner comme il faut, parce que c'est nous autres qui l'enquêtent, là.
Ben oui.
Il s'est fait pogner, mais joliment pogné, là. Ben là, il a fini par avouer que non, il n'avait pas écouté de bobine, non. Il avait fait ça à partir d'une captera. Mais il dit qu'il a trouvé ça dans son tiroir 12 ans plus tard, qui n'était pas vrai. C'était Huon qui avait remis ça.
Ouais.
Voyez-vous que je veux dire, mais que c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que la bobine a été déposée le 30 juin 1993 sur la côte Sénette, dans les mains de Maître Gilbert et Maître Karine Daoudon, ils sont les gardiens de cette bobine-là. Comment que ça se fait que Yol a déposé le 30 juin? Comment ça se fait que Yol va porter la bobine le 26 octobre 1993? Comment qu'il peut aller porter la bobine plus qu'être dans les mains du comité? Puis lui, c'est le policier, il n'a pas le droit de toucher à ça. C'est un Karine Daoudon, mais le comité. Elle, il retourne dans ses mains, l'âme du crime retourne dans ses mains, c'est lui qui va apporter. C'était pas vraiment tout, il avait été porté à quatre tracts. Et Desjardins avait laissé croire qu'il avait écouté ça. Il avait menti. Mesdames et messieurs, simplement pour vous dire que M. Desjardins, c'est un malhonnête. Un menteur de la pire espèce.
Ouais.
Ce gars-là a détruit ma famille, a détruit ma santé. Il a détruit la santé de mon épouse. Elle est obligée de retourner sur le marché du travail par rapport à M. Desjardins. Mmh. M. Desjardins, c'est bien de valeur pour moi. Je ne suis pas un gars méchant dans le sens du mot méchant, là, mais tous les lundis, quand je suis capable d'y aller, je pars de Saint-Jean-sur-Richelieu et je m'en vais à 1701 Parthenay avec une femme merveilleuse, une dame qui m'aide ici à Montréal. Elle est vraiment merveilleuse, elle vient m'appuyer. Et puis, c'est marqué sur ma pancarte, ici travaille un menteur de la pire espèce, Gilbert Desjardins, directeur en bel essai du laboratoire de sciences judiciaires.
Mais vous allez chaque lundi, vous allez là-bas sur le lieu?
Non, pas tous les lundis, quand je suis capable, j'y vais. Là, je vais y aller par lundi, si fait beau, j'y vais.
Oui.
S'il y en a qui veulent venir me voir, je vais être à 17h01 par tenet.
Pour vous appuyer, donc?
Pour m'appuyer, je vais être là à partir de 8h avec ma pancarte. Mais l'autre qui est encore pipi, et que je trouve encore le plus grave, c'est que le directeur général, qui est maître, monsieur, comment il s'appelle, Bob Dufour, lui est au courant que lui a posé des actes criminels. Il était même devant l'ordre des ingénieurs quand il était condamné. Ce gars-là, il l'a protégé à 100%. Avec la complicité du ministère de la Sécurité publique, une femme que j'ai parlé personnellement à elle, je peux vous dire, son petit nom, c'est Liette.
Oui.
J'y ai parlé par téléphone, par un accident, parce qu'elle ne devait pas me répondre, et puis elle m'a dit au téléphone, je lis les enregistrements, ne parlez pas de ça, monsieur Mathieu. Non, faut pas parler de ça, monsieur Mathieu, laissez ça mort. Pas, mais savez-vous pourquoi, mesdames et messieurs, que le ministère ne veut pas que ça sorte? C'est parce que ça remettrait tout en cause le laboratoire de sciences judiciaires de Montréal, parce que c'est supposé être un protocole.
Là
que la vérité se dit.
Mais Monsieur Mathieu,
c'est pour ça qui est arrivé.
Monsieur Mathieu, ce que vous êtes en train de dire, comme quoi il n'y a aucun juge qui peut remettre en question l'expertise ou le témoignage d'un expert comme
Desjardins. Exactement. Et c'est là que l'ordre des ingénieurs. Bon, j'ai un de ma parenté qui m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Fernand Jodin, qui était directeur autrefois, il était sur retraite, il était directeur en biomédical. Et lui a fait une expertise chez ces enregistrements-là. Il n'y a aucun doute. Puis lui, là, beau-frère, pas beau-frère, lui, là. C'est ça, t'as fait ça. Il était un gars extrêmement direct. Il n'y a aucun doute dans son esprit que c'était un montant. Et c'est lui qui m'a aidé à porter la plainte devant l'ordre des ingénieurs. Eh bien, j'ai frappé un mur. Quand ils ont vu les actes criminels que ce gars-là a posés, bien, ils les ont camouflés. Mais ils ont dit, on va les ôter, puis tu vas plaider coupable, comme de quoi tu étais un stagiaire, puis que tu connaissais pas ça, puis ainsi de suite.
Ça, c'est devant l'ordre des ingénieurs.
Oui, devant l'ordre des ingénieurs.
Puis c'est donné des titres en plus de ça.
Il s'est donné des titres qu'il n'y avait pas. Ah, ouais. Puis en plus, c'est donné des choses qui n'étaient pas espères, puis de faux rapports. Tout ça a été retiré parce que c'était du criminel. Là, tu sais, vous, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et ça ne nous concerne pas, dit monsieur, et ça regarde la police. J'ai tout volé son service de police de la ville de Montréal. Ouais. J'ai parlé d'un enquêteur, j'ai fait une plainte en bonne et due forme. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas rien faire, c'était rendu plus haut qu'eux autres. Il y avait comme les mains dans d'autres les bélotes. Ouais. Fait que, écoutez, c'est grave. Quand tu dis qu'un laboratoire. Puis écoutez, monsieur, je suis chien d'esprit, là. Puis de pire en ça, monsieur, là, c'est que mon épouse, elle, est à sa retraite. Elle est obligée de retourner sur le. Parce que moi, là, j'étais plus capable, elle va avoir mes yeux. Elle est retournée sur le marché du travail, on faisait une petite vie. Je suis pas un ben ou là, on faisait une belle vie. Aujourd'hui, j'ai été obligé de rester dans la maison, puis j'ai plus d'argent. Puis ma maison est hypothéquée. Puis elle était plus hypothéquée. Ça, c'est dû à M. Desjardins. M. Desjardins, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez volé ma retraite, vous avez volé la retraite de ma femme, puis vous avez volé notre santé, puis vous avez rendu un enfant malade par votre comportement. Puis le ministère de la Sécurité publique n'a rien fait.
Eh bien,
Monsieur Mathieu, peut-être vous n'êtes pas le seul. Hein, il y a des centaines, des centaines
de gens. Je suis convaincu. Je suis convaincu dans le fond de moi-même qu'il y a des innocents en prison, Monsieur Desjardins. Il y a des innocents. Et puis je vous dis, Monsieur, j'ai pour être certain de ne pas se tromper de personne. J'ai été malheureusement les petites filles ont été tuées là. 14 ans, petites filles ont été tuées là. Le Concordia, pourquoi ils appellent ça là?
À l'émeute.
Non. La Polytechnique de Montréal. Oui. Justement, j'étais avec mon ami qui était à côté de moi, M. Fortin, et puis on était chez sa photo. Et puis sur ma pancarte, j'ai sa photo. Là.
Oui.
C'est sérieux. Puis ça fait. Oubliez pas là, que quand que l'été, je vois là, M. Hedge, oui. Ma femme donne des CD du reportage de M. Jean-Guy Mongrain, puis Monde Desjardins, qu'est-ce qu'il a fait? M. Mongrain, il a une émission à peu près de 20-25 minutes. Il y a eu un reportage de M. Benoît Tranchefontaine, qui était de TQS aujourd'hui, il est allé au poste 105-7, quelque chose de même, qui a fait un reportage de concernant Desjardins dans cette affaire-là.
Tu veux dire, même les médias, ils ont.
Ben oui, il y a eu la presse, Journal de Montréal.
Et ça n'a rien changé.
Absolument.
Je reviens juste maintenant. Vous avez reçu, de l'ordre des l'accès à l'information, vous avez reçu une convocation où vous étiez le 1er octobre. Vous êtes allé chercher quoi pour la.
En fait,
on part de octobre, ce mois-là.
Cette année.
Ce mois-là même.
Ce mois-là. Là, quand j'étais là, c'est parce que j'avais le rapport que l'ordre des ingénieurs a demandé de faire une expertise dessus l'enregistrement que l'ordre a donné à Desjardins. Ouais. Donc, eux autres, ils ont dit c'est la preuve présumément, la preuve originale. Ouais. Puis Desjardins, je l'ai pris à la vente. C'était pas vrai, là. Alors, ils l'ont pris, ils l'ont fait expertiser.
Ouais.
C'était un montage de A à Z.
Et vous allez chercher.
Fabrication de preuves.
Vous demandez assez d'informations. Ouais.
L'expert dit que c'était un montage de A à Z. Supposément que c'est celle que Desjardins avait dans ses mains, là. Ouais. Hey, c'est 48-458, M. Desjardins, ça vous dit quelque chose?
Dire qu'il y a des
gens. C'est 48-458. Mais ben, M. Desjardins, là, ils l'ont fait expertiser, puis lui, il avait dit qu'il y a plus ça sur la banque. Mais la banque, tu ne peux pas la manipuler. Donc, ça n'est pas de la banque. Ça n'est de le sergent détective Yvan Huard. C'est lui qui avait fait ça. Je n'ai pas compté la sténographe qui était piquée dans ça, elle avait.
Non, mais vous allez chercher l'expertise de M. Boucher?
Oui, c'est l'ordre des GGR qui l'a. Et l'ordre, et quand que l'ordre l'a eu, ils l'ont camouflé.
Et vous avez jamais eu une copie pour.
Oui, je l'ai eu. Parce que j'ai. Bon, je l'ai eu. Posez-moi pas des questions. Vous connaissez comment je travaille. Je l'ai eu. Mais il y avait un CD qui démontre clairement où il y a eu des coupes dans le CD. Ils n'ont jamais voulu me le donner. Ça fait un an et demi que j'attends après. Et là, il y a une décision qui s'en vient.
Dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on est en sécurité avec notre police.
C'est pas la police.
Je veux juste.
C'est pas le laboratoire.
Oui, Laboratoire, police,
et puis quand vous pensez que le commissaire des déontologues policiers, là, quand je dis le commissaire, je parle de l'institution, là, méfiez-vous eux autres.
Ah oui, oui,
c'est méfiez-vous, ça. C'est pas la meilleure place, là.
Dernier mot, M. Jean-Noël Mathieu. Je sais que vous êtes depuis 21 ans, vous n'avez jamais baissé les bras jusqu'à présent et tout. Vous continuez votre combat et tout. Quel message que vous pouvez donner à des gens qui sont. Ils sont dans l'impasse, si vous voulez.
La seule affaire, écoutez, c'est sûr que dans mon combat avec moi, j'ai la peau du président comme l'organisme au moment de son justice. Je n'aurais jamais été capable de me rendre que je me suis rendu. Le mouvement Action Justice a été.
Ils ont donné un coup de main, hein,
plus qu'un coup de main. Ils ont frappé dur. Et puis, mais Après ça, il est rentré le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, la police, en fin de compte, l'ordre des ingénieurs.
Ouais.
Puis là, les bâtons sont venus de partout, les bâtons des roues. Même la seule information, ça prend un an et demi avant d'être capable d'aller là. Ouais. C'est pour ça que ça dure des années et des années. Regardez, là, la dernière demande que j'ai faite, un an et deux mois. Là.
Mais vous avez jusqu'à présent, je me corrige si je me trompe, vous n'avez jamais eu justice finalement jusqu'à présent?
Jamais.
Est-ce que vous êtes le temps qui vous reste à vivre, est-ce que vous allez consacrer aussi à cette histoire-là ou vous allez reculer à un moment donné pour
jamais,
penser à vous?
Jamais.
Vous allez continuer jusqu'à la fin?
Jamais. Tant qu'il va me rester un respect, jamais.
Alors écoutez, voilà, Roland, il y a un dernier mot, deux secondes.
Moi, je vais dire une chose, que les gens pensent qu'ils sont protégés par la police.
Ouais.
Allô, la police!
Écoutez, monsieur, ça fait dur. N'oubliez pas une chose qui est très importante.
Ouais,
quand tu es rendu que la police enquête sa police, j'ai eu une preuve avec la Sûreté du Québec qui a présumément enquêté sur Desjardins. Puis lui, Desjardins, rien fait, tout était beau. Et pourtant, l'ordre dit le sens contraire. Puis d'autres experts disent le sens contraire.
Et ça, c'est syndiqué.
Et voilà, donc voilà, chers auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais bien remercier le courage, surtout de M. Jean-Noël Mathieu d'avoir accepté notre invitation et de venir et de nous reparler, de réouvrir un petit peu cette trappe qui est douloureuse. Alors, on vous souhaite bon courage. Vous avez dit que lundi prochain, vous serez là-bas.
Probablement, s'il ne mouille pas, je vais être là à 7h.
À 7h du matin?
Entre 7h et 8h.
Alors, les gens qui veulent appuyer la cause de M. Jean-Noël Mathieu, alors rendez-vous au lieu.
1701, Partenay, Montréal, le laboratoire de sciences judiciaires. Je vais être là avec Nicole Hogg. C'est une madame vraiment magnifique.
Parfait.
C'est une personne qui console les injustices.
Merci aussi à Roland d'avoir participé comme d'habitude et tout. Je dis aussi merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute et passez une excellente journée. Au revoir.
Merci beaucoup, M. Fortin, pour m'avoir accompagné. J'ai de la discuter
merci.
Avec mes yeux.
Merci à tout le monde. Au revoir.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Reggae, Kamba, Zouk, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Hagamuffin, Mala, Hango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette Française, Soukous, Rock Francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.